lui aimant la peur. Je vais, suivant la phrase d'un personnage de Kipling, le naturaliste Hans Breitmann, vous raconter une histoire que vous ne croirez pas. Elle concerne un homme qui vécut fort paisiblement de ses rentes, fut considéré toute sa vie comme parfaitement normal et bien équilibré, jouit jusqu'au bout de l'estime de ses égaux et du respect de ses fournisseurs, et mourut étrangement. Je fis sa connaissance à Hastings, ville qui donna son nom à une bataille célèbre, plage élégante qui est à peu près de tous les endroits que je connais, celui où l'homme a le plus scientifiquement défiguré la mer. Il serait coûteux et peu pratique d'amener la mer dans Picardie, mais il y a une solution très simple, c'est de transporter Picardie près de la mer. Le résultat est une admirable promenade, longue de 5 miles, large comme les Champs-Élysées, bordée d'un côté par des villas, des hôtels et des boutiques de toutes sortes, et de l'autre côté par un mur en très belle maçonnerie qui, à marée basse, forme pour la grève un fond très satisfaisant et à marée haute maintient dans l'ordre les vagues tour à tour humiliées et rageuses. C'est un endroit sans pareil pour fumer un cigare dans un complet de flanelle de bonne coupe entre le clapotis des flots domestiqués et les accords de l'orchestre hongrois. Mais pour les gens qui aiment l'eau libre et les coins de falaise tranquilles, c'est pas ça. Ce n'était pas ça, évidemment, pour un homme d'élégante apparence que je rencontrais jour après jour sur cette grève boulevard. Et ce fut probablement ce qui nous attira l'un vers l'autre. Nous échangeâmes un après-midi des opinions sévères sur la localité et ses habitants. Le lendemain, nous trouvant ensemble à l'heure du bois, nous allâmes de compagnie à base tranquille, vers le large ou la mer, loin des petits enfants qui jouent sur le sable, des jeunes dames trop bien habillées et des orchestres à brandebourgs, ressemble vraiment à la mer et reprend son indépendance. Il nageait dans la perfection. On se n'était ni le style impeccable d'un Haggerty, ni le coup de pied formidable d'un Jervis, mais l'allure d'un homme qui a l'habitude de l'eau et s'y trouve à son aise. Dès lors, nous prîmes régulièrement nos bains ensemble. Il n'était pas bavard et j'étais encore moins curieux, de sorte que plusieurs semaines s'écoulèrent sans qu'aucun de nous se souciât d'apprendre sur l'autre autre chose que ce qu'il avait bien voulu raconter. Il m'annonça un matin qu'il partait le soir même et quelque peu à ma surprise, ajouta qu'il habitait une petite propriété du Devon et qu'il serait heureux de me voir si je pouvais trouver le temps d'aller passer quelques jours avec lui. Il fit miroiter à mes yeux les délices de pipe fumée à plat ventre dans l'herbe de rue et me parla d'une pièce d'eau qui lui appartenait, auprès de laquelle la mer à Westings n'était qu'un bassin malpropre et sans charme. J'acceptai son invitation et je m'y rendis un mois plus tard. Il vivait dans une maison quelconque, brique et plâtre, assise au fond d'un coteau. Il me fit voir, derrière la maison, un jardin qui descendait le long de la pente et indiqua d'un geste vague la vallée au-dessous de nous en me disant que c'était là que se trouvait l'eau. Je proposai un bain immédiat, mais il me répondit d'un ton embarrassé qu'il était préférable d'attendre le soir. Que d'ailleurs c'était l'heure du thé. Nous rentrâmes, son thé se composait de brandy et soda mélangés par moitié. Il en but trois verres et nous parlâmes de bains et de natation. Les courses et les records ne l'intéressaient pas. Il nageait l'overhand stroke à la perfection. Je l'avais vu à l'œuvre, mais il n'en savait même pas le nom. Il me raconta d'un air rêveur que tous les hommes de sa famille avaient beaucoup aimé l'eau. Son père était mort d'une congestion à l'âge de 72 ans, en se baignant dans les environs de Maidenhead, et son frère, encore enfant, s'était noyé dans les herbes, ne désignant pas l'endroit. Je voulus, par politesse, donner aussi mon histoire, lui parler d'un homme que j'avais connu, qui, nageant dans une crique sur la côte d'Irlande, avait distinctement vu, à quelques mètres de lui, une pieuvre de 6 pieds d'envergure collée contre un rocher. Il n'a conquis de si effroyables peurs qu'il revint vers la terre, abrasé, affolé, voulu se hisser sur une pierre qui tourna en lui cassant la jambe. Il resta un quart d'heure dans l'eau, cramponné à la roche, incapable de remuer et hurlant d'épouvante. Mon hôte m'écouta avec des yeux égarés, la bouche ouverte et les deux mains crispées sur la table. Je lui demandai s'il était nerveux. Il me répondit que non, se versa deux doigts de brandy. Sa main tremblait un peu. Il les but et regarda par la fenêtre d'un air hébété. Le soleil était sur le point de se coucher lorsque nous descendîmes vers la vallée. Il nous fallut traverser un taillis inculte, puis dévaler le long d'un talus en pente raide pour arriver à l'eau. C'était une grande mare d'aspect sauvage, complètement entourée de fourrés et de broussailles, et de forme assez curieuse. Elle était longue de 150 mètres environ, et en face du point où nous étions, large d'au moins 60. Mais l'autre extrémité allait en se rétrécissant progressivement, et se terminait par une sorte de canal, mesurant à peine 4 ou 5 mètres d'un bord à l'autre, et complètement obscurci par le feuillage d'un bouquet d'arbres qui le surplombait. L'eau paraissait parfaitement propre et pourtant singulièrement peu transparente, si bien que, sauf sur le bord, il était impossible de distinguer le fond. Je commençais à me divertir tranquillement, savourant d'avance la volupté d'une demi-heure dans l'eau froide, après une chaude journée. Mon hôte resta quelques secondes immobile, puis défit brusquement ses vêtements, les jeta à terre, enfila son caleçon, et se tint de nouveau immobile, debout, tourné vers la mare et haletant un peu. J'attribuais à l'influence du brandy son évidente nervosité et ne put m'empêcher de songer qu'il avait de grandes chances de finir quelques jours par la fameuse congestion comme son père avait fini. J'entrai dans l'eau d'un saut et quelques minutes plus tard, il m'y suivit. Après avoir hésité un peu, il s'avança d'abord lentement, par enjambée prudente, puis, quand la profondeur fut suffisante, il se laissa aller doucement, sans bruit ni éclaboussure, et se dirigea aussitôt vers la partie resserrée de l'étang, nageant avec une force et une précision singulières. Il s'arrêta devant l'entrée de cette sorte de couloir dont j'ai parlé, pendant quelques instants, se tint presque immobile, ne remuant dans l'eau qu'avec d'infinies précautions, la figure tournée vers la surface, sous laquelle il semblait scruter quelque chose d'invisible pour moi. Ses manières me parurent si étranges que je lui demandais ce qu'il voulait bien aller voir à cette extrémité de l'étang. Il me répondit très bas, « Il y a une source !» et se tut de nouveau. Je m'efforçais moi aussi de distinguer ce qui se trouvait au-dessous de nous, mais ne tardait pas à m'apercevoir que la profondeur était beaucoup plus grande que ce que j'avais d'abord supposé. On ne voyait du fond que l'extrémité de hautes herbes qui s'arrêtaient à environ 1,50 m de la surface et ondoyaient perpétuellement, bien que l'eau fût parfaitement calme en apparence. L'existence d'une source au fond de cet étroit canal qui pouvait avoir 8 à 10 mètres de long, expliquait en effet le mouvement qui les agitait. Elles s'écartaient parfois, et c'est alors entre elles une sorte de chenal, dont il était difficile d'évaluer la profondeur, et qui se continuait comme une voie soudainement tracée, jusqu'à la rive verticale du fond, où je pouvais discerner vaguement un trou, la source, fort probablement, qu'un nouveau mouvement des herbes dissimulait un moment plus tard. Oh, c'était bien le plus étrange coin de mare que j'avais jamais vu. Je tournai la tête pour faire une observation à ce sujet à mon compagnon, mais la vue de son visage me fit instantanément oublier ce que j'allais dire. Il était pâle, ce qui pouvait s'expliquer par l'extrême froideur de l'eau, mais surtout tiré et plissé de rides soudaines. Il portait une expression curieusement affairée et inquiète. Je regardais encore quand il nagea lentement vers moi, toujours à brasse prudente, et me regarda dans un chuchotement effaré. Il n'y a rien, hein? J'allais lui répondre avec douceur qu'il n'y avait rien du tout, et que nous ferions peut-être de bien de nous habiller. Lorsque je sentis les couches profondes de l'étang remuer par une mystérieuse poussée, les longues herbes du fond s'ouvrirent brusquement, comme écartées par le passage d'un corps, et mon hôte se retourna d'un brusque coup de rein, et poussant une sorte de gémissement, fila vers l'autre bout de la mare, s'allongeant dans l'eau comme une bête pourchassée. Son affolement devait être contagieux, car je le suivis aussitôt avec la même hâte, mais j'avais conservé assez de sang-froid pour observer qu'il nageait le Tregaron, Double Over Hamstroke and Single Kick, nage que je n'avais jamais vu employer auparavant, et cela avec tant de puissance et d'habileté que, loin de le rattraper, je le voyais, malgré mes efforts, gagner sur moi à chaque instant. Quand j'arrivais à la berge, il était déjà sorti de l'eau et assis sur l'herbe vaseuse, la bouche ouverte, haletait et râlait de telle manière que je crus qu'il allait mourir sur place. Il se remit pourtant, et un quart d'heure plus tard, ayant repris nos vêtements, nous retournâmes vers la maison. Je m'abstins de poser aucune question sur les incidents de la journée à celui que j'avais déjà catalogué comme un alcoolique, affligé de troubles nerveux, et me contentai de l'observer à la dérobée. Il fut pendant toute la soirée parfaitement calme et normal, ne but que quelques verres de bière en dînant, et bien que peu bavard, causa sur divers sujets de la manière la plus raisonnable. La matinée du lendemain fut également paisible. Après le lunch, je lui demandai s'il ne serait pas préférable de prendre notre bain un peu plus tôt, dans la journée, que nous avions fait la veille. Il acquiesça, mais il trouva par la suite quelques futiles prétextes, et il faisait presque sombre quand nous partîmes. Il était, comme le jour précédent, non pas positivement ivre, mais déséquilibré par la surexcitation continue de l'alcool, et donna en approchant de l'étang des signes de l'herbosité maladive. Il exécuta, devant le trou obscur où se trouvait la source, la même pantomime de peur abjecte et de curiosité, et s'avança plus près, puis plus près encore, jusqu'à ce que, devant le recul soudain des herbes, il exécuta dans l'eau un brusque soubresaut avant de se retourner pour s'enfuir. Mais j'avais eu soin de me placer un peu en arrière de lui, et le saisissant de passage par le bras, je l'arrêtais net. Je tenais encore quand l'eau parut s'agiter derrière lui, et avec une sorte de halètement, il donna un coup de pied brusque qui le jeta contre moi. Alors, je sentis distinctement sur ma jambe le frôlement d'une chose longue et rapide qui passait près de mon corps, une chose qui semblait avoir surgi d'entre les herbes épaisses et secouait de son élan brusque les couches profondes de l'étang. Je suis peu impressionnable, et aucunement nerveux, mais à ce simple contact, la peur, l'effroyable peur, me bloqua soudain la gorge. Oh, je ne puis me rappeler rien d'autre qu'une fille affolée côte à côte avec un homme qui laissait échapper à chaque brassée un gémissement d'angoisse désespérée. Je me souviens confusément qu'il nageait encore le Tregaron, nage qu'il m'avait toujours dit d'ignorer, et la puissance de son effort laissait derrière lui, dans l'eau trouble, un sillage profond. Mais cette fois, la même force nous poussait tous les deux, et j'arrivais à la berge avant lui. Quand nous fûmes habillés, je me retournai une seconde pour regarder la mare, avant de retraverser les fourrés. La surface en était merveilleusement calme, et luisait sous la lumière mourante comme une plaque d'étain. Mais il me sembla, voir à l'autre extrémité les inexplicables remous qui faisaient osciller les herbes du fond. Pas un mot ne fut prononcé entre nous sur ce qui s'était passé, ni dans la soirée, ni le lendemain. Mais quand vint le soir, je refusais même de l'accompagner à l'étang. Il me laissait entendre que, vu l'état de ses nerfs, il ferait bien de m'imiter. Il secoua la tête sans rien dire et partit seul. Pendant qu'il était absent, je fus saisi par l'énorme ridicule de la situation. Et lui laissant un mot, je bouclai ma valise et partis sans plus de formalité. Un mois et demi plus tard, le hasard me fit passer sous les yeux un bref fait divers qui annonçait que M. Silver de Sherwood, Devon, avait été trouvé mort dans un étang qui lui appartenait. Lorsque le cadavre fut découvert, il était à moitié sorti de l'eau. Les mains étaient cramponnées désespérément aux branches d'un saule qui surplombait, et la figure était figée dans une grimace d'effroyable horreur. La mort était attribuée à un accident cardiaque. Ma version à moi était légèrement différente, mais je n'ai pas cru devoir la donner sur le moment. Pour la simple raison que l'on ne m'aurait pas cru, pas plus que vous ne me croirez.